Bien, mais écoutez, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, bonjour. Je vous prie de m'excuser d'abord pour le retard. C'est vrai que l'emploi du temps est un petit peu tendu, mais contrairement à ce que disait Monsieur Fournier, il ne m'a pas embêté du tout. Et finalement, on arrivait à se mettre d'accord, j'allais dire assez rapidement, sur la perspective d'une date. Et je suis très heureux d'être là aujourd'hui et pour vous parler d'un sujet, effectivement, qui est un sujet un peu difficile parce que il touche pas forcément votre réalité de tous les jours. J'allais dire, on peut vivre sans y penser, ça, il n'y a pas de problème. Et malgré tout, c'est un sujet extrêmement important, puisque c'est le sujet de la défense et de la sécurité européenne. Et c'est un sujet qui est assez difficile à aborder, parce que, surtout en tant que député européen, on a deux gros problèmes quand on veut parler de ce sujet. Le premier problème, c'est que tout le monde sait que la sécurité et la défense, c'est important, dans l'absolu, dans l'abstrait. On sait que c'est des questions géostratégiques voilà, qui ont beaucoup d'intérêt, mais on peine à voir comment ça fonctionne au quotidien, qu'est-ce que ça nous apporte au quotidien, est-ce qu'il y en a vraiment besoin au quotidien, est-ce qu'il faut vraiment que l'Europe mette de l'argent là-dedans, en gros, à quoi ça correspond. Donc déjà, il y a un peu une contradiction entre le fait de vouloir faire quelque chose d'ambitieux en matière de défense et puis de savoir exactement à quoi ça correspond. Puis la deuxième contradiction que moi j'ai à résoudre dans mon travail de tous les jours, c'est que je suis député européen, que le Parlement européen est quelque chose qui prend de l'importance, mais en même temps, on sait bien que pour ce qui concerne les décisions en matière de défense et de sécurité, c'est les gouvernements qui décident. Quand la France décide d'envoyer des soldats en Afghanistan, c'est la France qui décide. Alors, elle est dans une coalition, elle travaille avec les Américains, elle travaille avec d'autres pays, mais c'est quand même elle qui décide. Et la question, j'allais dire, c'est presque une question philosophique, c'est que ceux qui peuvent décider de la vie ou de la mort de leurs soldats, c'est les gouvernements des nations. Et j'allais dire, c'est bien comme ça, tant mieux. C'est la démocratie nationale et c'est les gouvernements nationaux qui décident du sort des hommes. Et en même temps, de plus en plus, il y a des opérations qui sont menées au nom de l'Europe pour défendre ce qu'on estime être des intérêts communs et des valeurs communes. Que ce soit effectivement en Afghanistan, que ce soit souvent en Afrique, que ce soit parfois dans le Caucase ou dans les Balkans, j'aurai l'occasion d'y revenir, l'Europe intervient de façon commune, unitaire. Et là, effectivement, il faut qu'il y ait des institutions européennes qui aient un contrôle là-dessus pour que les citoyens européens aient une vision de ce qui se fait en leur nom. Alors, vous voyez, la question de la défense est une question assez sensible sur laquelle il est difficile de trouver sa place au niveau européen. En Europe, pendant très longtemps, on n'a pas parlé de défense. On a parlé d'économie, on a parlé de monnaie, c'est très à la mode en ce moment avec la crise de l'euro. On a parlé du grand marché, on a parlé de l'ouverture des frontières, on a parlé de la concurrence, on a parlé de l'agriculture, évidemment, la politique agricole commune, qui est la plus grande politique, et d'ailleurs la seule vraie politique commune européenne. Donc on a parlé de plein de sujets, on a parlé évidemment au début de la création de l'Europe du charbon et de l'acier, de l'énergie, donc on a parlé de plein de sujets, mais il y a un sujet qui était un petit peu tabou en Europe, c'était la défense. Et pourquoi ce sujet était tabou? D'abord parce que l'Europe est née, la construction européenne est née sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale, et elle est née surtout sur l'alliance franco-allemande, et que ce sujet de la défense était un sujet difficile à aborder avec nos amis allemands. L'Allemagne, suite à la Deuxième Guerre mondiale, pour des raisons évidentes qu'on comprend tous, ne pouvait pas se doter d'une politique de défense autrement que soumise aux États-Unis. Parce qu'on ne voulait pas que l'Allemagne puisse, j'allais dire, renaître avec des vieux démons militaristes ou autres. Donc toutes les questions de défense en Allemagne sont extrêmement, strictement encadrées. Et donc il était difficile de concevoir quelque chose à l'échelle européenne sans l'Allemagne, qui est le plus grand pays, et puis avec l'Allemagne, mais qui voulait des ambitions très réduites en matière de défense. Et donc et puis il y avait d'autres raisons. Les autres raisons, c'était qu'en Europe, on a des pays qui ont des statuts très différents. La France est par exemple un pays nucléaire, mais il n'y a que deux pays, au sens nucléaire, au sens qui détient l'arme atomique. Il n'y a que deux pays en Europe qui détiennent l'arme atomique, il y a la France et la Grande-Bretagne. Les autres non seulement ne la détiennent pas, mais certains sont contre. Donc ça posait déjà un problème aussi de doctrine. Est-ce qu'on était pour une dissuasion nucléaire ou pas? D'autres questions qui se posaient, pourquoi on n'arrivait pas à un débat sur la défense en Europe, c'était par exemple la question du statut de neutralité. On a en Europe des pays neutres, la Suède, l'Autriche, l'Irlande, sont des pays neutres et qui tiennent beaucoup à leur neutralité. Nous, nous ne sommes pas un pays neutre, l'Allemagne n'est pas un pays neutre. Donc il fallait là encore trouver un dénominateur commun qui permette de dépasser ces différences. Puis la troisième raison pour laquelle en Europe il était difficile de parler de défense, c'est que vous aviez des pays, la plupart des pays européens font partie de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui date de 1949, créé autour des États-Unis du temps de la guerre froide pour faire face au péril soviétique. Et l'organisation de l'Atlantique Nord était perçue et reste perçue, même si la guerre froide est finie, est perçue comme l'organisation par excellence pour la sécurité. J'allais dire l'organisation qui s'occupe de la sécurité du territoire européen. Si demain nous sommes en danger sur le territoire européen, un danger lourd d'invasion, c'est l'OTAN qui est perçue comme la meilleure garantie. C'est l'OTAN et l'alliance avec les Américains. Les Américains ont encore des bases aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, au Danemark. Donc voilà. Donc tous les pays européens n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur une identité commune en matière de défense. Voilà. Il y a ceux qui voulaient que l'alliance avec les États-Unis, ceux qui voulaient pas d'alliance du tout, ceux qui voulaient un tel type de système, d'autres pas du tout. Donc pendant des années et des années, il était impossible de parler de défense au niveau européen. Il y avait eu une vague tentative en 1954, ce qu'on appelait la Communauté européenne de défense, la CED, qui était une initiative franco-allemande et qui avait échoué d'ailleurs, qui avait été rejetée par les Français à l'époque. Et j'allais dire de 1954 jusqu'aux années 90, c'est-à-dire pendant 40 ans, on n'a plus parlé de défense au niveau européen. Et pourquoi on en a reparlé à la fin des années 90 ? Ça fait la jonction avec ce que vous aviez la gentillesse de rappeler, c'est-à-dire ce que moi j'ai vécu aux premières loges, puisque ça a été mon métier pendant une dizaine d'années, ça a été les guerres de Yougoslavie. Pourquoi ? Parce que, je ne vais pas revenir sur les causes, sur les interprétations, chacun a un peu sa vision de cette histoire-là, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 ? Bon, il y a eu la chute du mur de Berlin, la fin du rideau de fer en 89-90, mais surtout il y a eu les guerres de Yougoslavie entre 91 et 95, et il se trouve que c'était sur le continent européen. Ces pays, tous les pays qui sont nés de la fragmentation de la Yougoslavie, il y en a 6, ces pays étaient des pays sur le continent européen. Et donc à nos portes, comme on avait l'habitude de dire, à 2 heures de Paris, à 2 heures de vol de Paris, on a eu une guerre, plusieurs même, on a eu au moins 3 ou 4 guerres, extrêmement pénibles humainement. C'est des guerres qui ont fait 3 à 4 millions de réfugiés, qui ont fait 250 000 morts, c'est pas rien. Et donc depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'avait jamais eu de conflit en Europe sur notre sol. Et ce conflit-là, l'Europe a été incapable de le gérer. Quand la guerre a éclaté en Yougoslavie, l'Europe a dit bah, « écoutez, on va essayer de faire des choses ». On n'a rien fait, on n'a rien pu faire. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne et la France n'avaient pas la même lecture de ce qui se passait là-bas, parce que l'Angleterre était très réticente à intervenir, parce que les autres pays européens ne voulaient pas trop mettre leurs mains là-dedans. Donc pendant des années, on s'en est remis à l'ONU pour faire une politique humanitaire. Et là, moi qui étais sur place à l'époque, je vais vous dire comment on vivait ça sur place. C'était en gros, on envoyait des soldats, on envoyait beaucoup de soldats en ex-Yougoslavie, et nous, Français, on en a perdu beaucoup. Vous savez, on parle beaucoup, j'y reviendrai tout à l'heure, on parle beaucoup de l'Afghanistan. On a eu jusqu'à présent 41 morts militaires en Afghanistan. On en a eu 83 en ex-Yougoslavie, en autant de temps. C'est pour relativiser un petit peu. Vous voyez, en ce moment, quand on a un soldat qui décède en Afghanistan en opération, j'allais dire, ça fait beaucoup de bruit. On y est très sensible, et tant mieux. Enfin, je veux dire, heureusement qu'on est sensible à la perte de nos soldats. Il faut relativiser un petit peu, parce que dès qu'il y a un soldat qui meurt en Afghanistan, on dit « oulala, est-ce qu'il ne faut pas se retirer d'Afghanistan ?» En Yougoslavie, on en a perdu 2 fois plus, en autant de temps, voire en moins de temps, puisque ça a duré 3 ans et demi, alors qu'en Afghanistan, ça fait déjà 9 ans qu'on y est, 8 ans. Tout ça pour vous donner un ordre de proportion par rapport à tout ce qu'on entend dans les médias. Donc en Yougoslavie, on a envoyé beaucoup de soldats, mais les soldats qu'on a envoyés, on ne les a pas envoyés pour se battre. Comme on n'arrivait pas à avoir d'accord sur la politique qu'il fallait mener là-bas, on faisait de la politique qu'on appelle humanitaire. Donc nos soldats qui étaient là-bas, sous casque bleu de l'ONU, ils étaient là-bas pour sécuriser les convois humanitaires. En gros, et ce que disent les gens sur place, c'est « vous vous assurez qu'on meurt le ventre plein ». Voilà, c'est un peu une caricature, mais c'était un peu ça. Moi, je peux vous dire que j'ai vécu ça de très près. J'ai vécu pendant plusieurs mois à Sarajevo, qui était une ville assiégée pendant la guerre. Effectivement, on était entouré de soldats français, allemands, espagnols, anglais, italiens. Ces soldats avaient un mandat qui ne leur permettait pratiquement pas de tirer un coup de feu, hormis quand ils étaient attaqués, eux, directement. Donc la population se faisait bombarder tous les jours. On avait à Sarajevo, à l'époque, 10 morts par jour. Mais là, les soldats étaient là, non pas pour ça, mais ils étaient là pour acheminer les convois humanitaires de l'ONU. Alors vous me direz, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais on voit bien qu'il y a des limites quand même à tout ça, et qu'il y avait des limites politiques très fortes, et puis des limites militaires. Moi, j'en ai encore parlé cette semaine à Bruxelles avec des officiers français que j'avais connus là-bas, qui m'ont dit, vous ne pouvez quand même pas imaginer le traumatisme que c'est pour un militaire d'assister complètement impuissant à des massacres, à des tirs sur des populations civiles, et de ne pas être autorisé à répliquer. On est militaire, ça il ne faut jamais le perdre de vue, il y en a peut-être parmi vous dans la salle, des militaires ou d'anciens militaires. Quand on est militaire, on sait qu'on prend des risques, on sait qu'on est là pour employer la force. Vous savez, l'expression « soldat de la paix », c'est une très belle expression, mais ça ne recouvre pas vraiment la réalité du métier de militaire. Les humanitaires sont là pour de l'humanitaire, les militaires sont quand même là aussi pour se battre, quand il faut se battre, et il y a des causes qui méritent qu'on se batte pour elles. Tout ça pour vous dire qu'il y a eu un profond traumatisme en Europe sur cette incapacité à résoudre ce conflit. Et donc, ce conflit, il a été résolu comment ? Militairement, par les Américains. C'est les Américains qui sont intervenus en 1995 en Bosnie-Herzégovine, et puis en 1999 au Kosovo. Et l'Europe, à ce moment-là, a quand même ressenti une certaine honte, une certaine gêne. Ne pas être capable, quand on est la première puissance financière du monde, la première puissance monétaire du monde, la première puissance commerciale du monde, une des premières puissances économiques globales du monde, une des premières puissances démographiques et une des premières puissances commerciales du monde, ne pas être capable de maintenir la stabilité et la paix sur son propre continent, c'est quand même quelque chose d'extrêmement choquant. Et donc les dirigeants européens, à la fin des années 90, ont dit... On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer à se déchirer ou à se neutraliser sur des questions qui nous concernent tous. Là-dessus est arrivé aussi, il faut bien le dire, les attentats de septembre 2001, où là, on a vu que les menaces... Il n'y a pas de problème dans le couple franco-allemand, il n'y a pas de problème d'interprétation avec les Anglais. Quand vous avez une menace terroriste, elle s'adresse à tout le monde. D'ailleurs, elle a frappé les Américains en 2001, elle a frappé les Espagnols en 2004, elle a frappé les Anglais en 2005, elle nous frappera peut-être, elle nous a frappé nous en 1995 dans le métro de Paris. Donc une menace terroriste, vous savez, il faut que tout le monde fasse front, et c'est des intérêts communs qui sont menacés. Donc à la fin des années 90 et au début des années 2000, il y a eu cette conscience parmi tous les États européens, que ça ne pouvait pas continuer comme ça. L'OTAN, c'était très bien. Les Américains, c'était très bien. Mais qu'il fallait qu'on prenne un peu notre destin en main. Et donc, en 1999, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont créé ce qu'on a appelé la politique européenne de sécurité et de défense, la PESD. Alors, c'était très modeste au début. Mais c'était mettre des mécanismes de décision en commun, j'allais dire, pour ne plus revivre les divisions qu'on avait vécues au moment de la Yougoslavie, et donc pour se dire, voilà, s'il y a une crise qui éclate, en Europe ou hors d'Europe, une crise dont on estime qu'elle mérite une réponse commune des États européens, eh bien on pourra y faire face ensemble. Au besoin, on pourra envoyer des soldats ensemble, s'il faut se battre, et si on n'envoie pas des soldats, il faudra qu'on puisse peut-être envoyer effectivement de l'aide humanitaire ensemble. Peut-être qu'il faudra qu'on envoie des policiers ensemble, parce que c'est peut-être juste des questions de ce qu'on appelle maintenant l'état de droit, des problèmes de démocratie. Il faudra qu'on envoie des douaniers ensemble. Peut-être que c'est un problème aussi de contrôle des frontières. Voilà. Et donc, c'est créé cette politique extrêmement modeste au début. Et puis là, maintenant, ça fait 10 ans. On a fêté au mois de décembre 1999 le 10e anniversaire de cette politique étrangère et de sécurité et de défense. Alors, quand on en parle, il y a beaucoup de gens qui vous disent « Oui, oh, votre truc, là, c'est bien beau, le truc européen, c'est un peu un cache-misère, parce que malgré tout, on a vu que sur l'Irak, de nouveau, les Européens ont été divisés. Il y en a la moitié qui ont voulu aller avec les Américains, l'autre moitié qui n'a pas voulu y aller. On voit bien qu'il y a plein d'endroits où on n'arrive pas à intervenir en commun. Donc, vous savez, la politique européenne en la matière, elle est quand même très faible. » C'est vrai. Parce que, comme je vous l'ai expliqué au tout début, les politiques militaires, les politiques de défense, ça reste des compétences nationales. Et j'allais dire, tant mieux, c'est quand même un budget important, c'est le sort d'hommes et de femmes qui doivent être décidés au plus près des citoyens, et c'est au niveau national que ça se règle. Mais malgré tout, l'Europe n'a pas rien fait. Et sans doute serez-vous surpris d'apprendre qu'en 10 ans, l'Europe, en tout, a envoyé 70 000 soldats hors de ses frontières pour des missions de maintien de la paix en son nom, au nom européen. Il y a 67 000 hommes exactement qui ont servi, pas que des militaires, des policiers, des magistrats, des humanitaires, des fonctionnaires, qui ont servi hors des frontières de l'Europe, dans des missions européennes, avec le drapeau européen, pour gérer des crises, la dernière en l'occurrence étant celle d'Haïti par exemple, avec le tremblement de terre, pour apporter des solutions à des conflits ou à des sorties de conflits qui étaient un petit peu difficiles. On a par exemple, en ce moment, nous avons tout ça s'est fait dans 23 opérations. 23 opérations qu'on appelle des opérations extérieures de l'Union européenne. En ce moment, par exemple, on en a 13 qui sont en cours. Il y a 13 opérations qui se mènent avec le drapeau européen, qui sont financées par l'Europe et qui sont faites par tous les pays européens. C'est-à-dire que les 27 pays européens sont d'accord pour mettre des moyens en commun. Alors les moyens, c'est des hommes, évidemment, c'est de l'argent, évidemment, mais c'est aussi des bateaux, par exemple. La lutte contre la piraterie, vous savez qu'on parle beaucoup de piraterie, il y a eu des opérations assez spectaculaires au large de la Somalie, dans le golfe d'Aden. Eh bien, pour lutter contre la piraterie, en 2008, c'est les Français qui ont décidé ça, c'est le président Sarkozy à l'époque, avec les Espagnols, qui a mené ce combat, il a dit « c'est un défi qui nous concerne tous ». D'abord, il y a eu des bateaux français, c'est vrai, qui ont été kidnappés, enlevés, mais il y a aussi des bateaux espagnols, tous les jours, qui subissent des attaques, il y a des bateaux belges, il y a des bateaux... italiens, grecs, qui sont la proie des pirates. Ça menace nos intérêts. Je vous rappelle que 30% de nos approvisionnements en énergie passent par cette région d'Afrique, la Corne de l'Afrique, ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique, au large de la Somalie. Ça concerne nos intérêts européens. Donc il faut qu'on défende nos intérêts européens. Donc on a monté une flotte européenne, on appelle ça l'opération Atalante, depuis décembre 2008. C'est une opération extrêmement réussie, de lutte contre la piraterie en Somalie. C'est tellement réussi d'ailleurs que les Américains ont demandé à y participer, mais ça reste une opération européenne. Les Chinois demandent à y participer, les Russes demandent à y participer, les Japonais demandent à y participer, les Norvégiens, qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui sont un pays européen naturellement, demandent à y participer. Voilà par exemple ce que l'Europe fait au niveau de la défense, on met des moyens maritimes en commun. On a fait autre chose, on fait des choses par exemple au Kosovo. Au Kosovo, qui est sorti de la guerre, qui est un État qui vient d'être reconnu indépendant par 22 pays sur 27, mais qui est un État à construire. Il n'y a pas d'administration, il n'y avait pas de douane, il n'y avait pas de police. C'est l'Europe qui prend ça en charge. On a 2000 personnels, pas de militaires. On a des policiers, on a des douaniers, on a des magistrats qui sont là pour aider à construire un État et à le stabiliser au Kosovo. On a la Géorgie, où les Russes et les Géorgiens... il y a eu une guerre, vous le savez, au mois d'août 2008. Le cessez-le-feu a été obtenu. Il faut surveiller ce cessez-le-feu. Il faut essayer de les faire discuter. C'est très compliqué et personne n'a la solution miracle. Mais qui est intervenu? C'est l'Europe. C'est l'Union européenne qui a envoyé des personnels sur place, essentiellement des policiers, des militaires de réserve, des gendarmes, pour maintenir le cessez-le-feu et faire les opérations de médiation. On a des opérations également au Congo. On a eu une grosse opération militaire au Congo, on a eu une grosse opération militaire au Tchad pour soutenir, si vous voulez, les réfugiés soudanais du Darfour qui étaient évacués vers le Tchad. Et ça posait un grave problème de sécurité au Tchad et ça posait un grave problème humanitaire en général. C'est des militaires européens commandés par des Polonais qui ont fait cette opération. Je vous dis tout ça d'abord parce que c'est des opérations qui sont assez méconnues. Donc quand on dit « l'Europe fait rien », non, l'Europe ne fait pas rien. C'est vrai que ce n'est pas les opérations forcément les plus spectaculaires. Et c'est vrai que, encore une fois, ça ne vous concerne pas forcément dans votre vie quotidienne. Cela étant, ce que je dis toujours, les opérations qu'on mène par exemple en Somalie. La Somalie est une zone extrêmement troublée. C'est une zone où il y a beaucoup de trafic, des trafics de drogue, des trafics d'armes, des trafics d'êtres humains, des problèmes de terrorisme. Ça ne nous concerne pas vraiment au quotidien, évidemment. Mais le jour où un terroriste somalien se fera sauter dans le métro de Paris, tout le monde dira « qu'avons-nous fait pour nous protéger ?» La meilleure façon de se protéger, c'est essayer d'anticiper les problèmes, d'aller sur place, de former, de développer, d'essayer de rendre ce pays, j'allais dire, un peu plus structuré. Voilà ce que peut faire l'Europe. Alors, ça m'amène à deux considérations sur... vous avez vu, le rôle de l'Europe est quand même modeste en la matière. Pourquoi l'Europe a un rôle à jouer là-dedans? Je dirais trois raisons. La première, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même difficile d'imaginer, pour les citoyens européens que nous sommes, j'allais dire, une grande puissance, malgré tout, économique, commerciale, démographique. L'Europe, ça compte dans le monde. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. Et c'est difficile d'imaginer qu'on n'ait pas une politique étrangère qui nous permette de peser un peu dans les affaires du monde. Qu'il faille toujours s'en remettre aux Américains, que ce soit les Chinois et les Américains qui s'entendent, ou maintenant les nouveaux pays émergents, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, tous ces pays qui maintenant vont pouvoir se coaliser, qui nous taillent d'ailleurs déjà beaucoup de croupières sur le plan commercial, qui maintenant s'affirment sur le plan agricole, par exemple, et ces pays-là qui aussi, en matière de politique étrangère et de défense, bah, pèsent sur les affaires du monde. Il serait quand même assez incongru, j'allais dire, que l'Europe ne joue pas un rôle. Donc déjà, il y a une aspiration, et je pense que vous, si on vous interroge individuellement, je pense que vous souhaiteriez que l'Europe soit un petit peu plus présente au niveau mondial et puisse affirmer ses intérêts. Première raison. La deuxième raison, c'est que l'Europe, je ne vais pas dire que l'Europe est quelque chose qui fait rêver, forcément, ça serait un peu maladroit de le dire comme ça, mais quand vous regardez les zones dans le monde où il y a des problèmes, les zones de crise, comment résoudre ces problèmes? Souvent, c'est des interventions extérieures, mais je ne parle pas forcément d'intervention militaire. L'intervention militaire, c'est vraiment le dernier cas de figure. Mais des interventions diplomatiques, des interventions économiques, des interventions de développement pour essayer de résoudre les crises ou de diminuer les tensions. Qui peut faire ça? Quels sont les pays ou les groupes de pays qui ont la puissance de faire ça? Il n'y en a pas 150 dans le monde. Hein. Il y a les États-Unis, soit tout seul, soit avec l'OTAN. Il y a de plus en plus la Chine. Un petit peu la Russie, mais quand même, c'est pas terrible. Et l'ONU, au sens large, mais l'ONU, on sait très bien que pour décider de l'intervention de l'ONU, il faut que tout le monde soit d'accord, ça prend beaucoup de temps, c'est très bureaucratique, ça marche pas toujours. Alors, l'Europe, elle a un rôle à jouer là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'endroits dans le monde où on voit que si les États-Unis décidaient d'intervenir, ça passerait pas. Et surtout depuis ce qui s'est passé en Irak. Les États-Unis ont perdu beaucoup. Alors, Obama essaye de recréer ça, mais les États-Unis ont perdu beaucoup de crédibilité. Et je vous prenais l'exemple tout à l'heure, je vous prends deux exemples. L'exemple, par exemple, du Darfour, le Soudan et le Tchad. Le Soudan, si les choses dégénèrent au Soudan, ce qui est vraisemblable à terme, c'est pas les Américains qui vont pouvoir jouer un rôle en tant que tel. Le simple fait de poser le drapeau américain au Soudan pour essayer de faire quelque chose, ça va déclencher plus de problèmes que ça ne va en résoudre. Parce que ça va susciter une hostilité des populations musulmanes, des populations arabes du Soudan, et ça va attirer, comme ça l'a fait en Irak, beaucoup de terroristes qui voudront justement montrer que les États-Unis ne sont pas les bienvenus. Quand on a eu la crise de Géorgie, vous savez que les Américains étaient à 300% derrière le gouvernement géorgien. Le problème, c'est que dans une crise comme ça, il y a deux camps. Que les Américains avaient beau être pour les Géorgiens, ils ne pouvaient pas les aider. Ils n'allaient pas intervenir militairement contre les Russes en Géorgie. Qui pouvait faire une médiation? Les Américains étaient décrédibilisés pour le faire. Ils avaient pris parti totalement pour un camp. Qui pouvait faire une médiation? Les Russes refusaient que ça soit l'ONU, refusaient que ça soit l'OSCE, une autre organisation régionale qui aurait pu intervenir. Qu'est-ce qui restait? Il restait l'Union européenne. Il n'y a que l'Union européenne qui est capable d'être acceptée par les deux parties. Alors, ce n'est pas idéal parce que l'Union européenne n'a pas la baguette magique pour résoudre les crises comme ça. Mais il n'y a que l'Europe qui pouvait mettre fin au conflit et tenter une médiation. Donc il y a beaucoup de zones dans le monde où, demain par exemple, si on a un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens, il va falloir des garanties de sécurité. Il va falloir, vous savez, par exemple, l'Europe a une mission douanière et une mission de police en Cisjordanie, dans les territoires palestiniens, pour commencer à aider à créer un État palestinien. Bon, si demain il y a un accord avec Israël, ça va quand même être tendu, ça va pas être facile, il va falloir des garanties de sécurité, il va peut-être falloir des troupes, il va sans doute falloir des policiers, il va sans doute falloir des douaniers pour respecter qu'il n'y ait pas de trafic d'armes ou de choses comme ça. Qui va pouvoir le faire? Les Américains sont, en dépit des problèmes actuels qui existent, sont totalement assimilés aux Israéliens. Pour la population palestinienne et pour les dirigeants palestiniens, les États-Unis ne sont pas crédibles en tant que médiateurs. Sont évidemment des partenaires importants, c'est un acteur important, mais qui est trop marqué en faveur d'un camp par rapport à l'autre. Qui est capable d'avoir une image un peu plus équilibrée? C'est l'Europe. Parce qu'en Europe, il y a un certain nombre de pays qui ont traditionnellement des relations beaucoup plus apaisées avec le monde arabe, avec les Palestiniens, et qui peuvent faire un pont entre Israéliens et Palestiniens. Donc c'est l'Europe qu'on va solliciter. Vous savez d'ailleurs qu'en Palestine, quand la Palestine a obtenu beaucoup plus en matière d'autonomie, notamment sur le plan économique, c'est l'Europe qui était le principal financeur. Les organisations, pardon, les infrastructures en Palestine, les aéroports, les ports, tout ce qui concourait à l'amélioration de la vie économique en Palestine, c'est l'Europe qui était le principal donateur. Alors là encore, la question c'est de savoir, est-ce qu'on veut que l'Europe soit juste un carnet de chèques, ou est-ce qu'on veut qu'elle joue un rôle diplomatique plus important? Et c'est ça le but de la politique européenne de défense et de sécurité. C'est de dire, l'Europe, c'est pas qu'un carnet de chèques, c'est pas que les Américains font les grandes choses, et puis nous on est derrière pour payer. Il faut que si on est des contributeurs, il faut qu'on soit aussi des acteurs, et sur le plan politique, et sur le plan diplomatique, et sur le plan de la défense. Donc vous voyez, il y a des zones où l'Europe est légitime à jouer un rôle. Puis la troisième raison, c'est que l'Europe, elle est assez adaptée pour ça, je viens de toucher le sujet. Pourquoi? Parce que là où l'OTAN, je vous disais qu'en matière de défense et de sécurité, la principale, je ne vais pas dire la principale concurrence, mais la principale organisation qui faisait que les Européens se disaient, bon, on n'a pas à s'occuper de ces problèmes sérieux de sécurité et de défense, c'est l'OTAN qui s'en occupe. Pourquoi maintenant l'OTAN, je ne vais pas dire l'OTAN est un petit peu dépassée, mais pourquoi l'Union Européenne est quand même bien placée? Parce que l'Union Européenne, on a développé avec les crises qu'on a vues, l'ex-Yougoslavie, l'Irak, l'Afghanistan aujourd'hui et beaucoup de crises en Afrique, le problème n'est pas seulement militaire. Vous avez beau gagner la guerre, on a gagné les guerres en ex-Yougoslavie. Quand l'OTAN s'est mis à bombarder et puis à intervenir militairement, vous savez, contre la Yougoslavie, ça a duré 78 jours, en Bosnie, ça a duré 2 semaines. On peut gagner la guerre militairement. On est plus puissant militairement. Même en Afghanistan, ce n'est pas tellement un problème de militaire. Quand on déclenche une offensive militaire en Afghanistan, on gagne. On gagne. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez gagné, qu'est-ce que vous faites de votre victoire? Et le problème qui se pose, c'est que les gens retournent dans la rébellion ou n'acceptent pas l'ordre qui est né de cette victoire militaire, parce que des problèmes d'inégalité sociale, parce que des problèmes de développement, parce que des problèmes de pauvreté, parce que des problèmes de corruption, parce que des problèmes de droit commun, parce que des problèmes d'ordre public. C'est ça qui se passe notamment en Afghanistan, c'est ça qui s'est passé aussi en Yougoslavie. Donc qu'est-ce qu'on demande maintenant à une puissance qui intervient? On ne lui demande pas seulement de taper sur les gens avec des armes, on lui demande de l'argent pour le développement, on lui demande de la formation de cadres, on lui demande de l'aide à la formation d'un État moderne, fonctionnel, on lui demande des douaniers, on lui demande des policiers, on lui demande des magistrats. Voilà le travail qu'il faut faire. On appelle ça l'approche globale. C'est-à-dire, on dit que la sécurité, maintenant, ça demande une approche globale. Ça va de l'humanitaire au militaire, en passant par le développement économique, en passant par l'assistance financière, évidemment, en passant par l'assistance commerciale, en passant par l'assistance juridique, en passant par l'assistance administrative. Et ça, l'Europe peut le faire. L'OTAN ne peut pas le faire. L'OTAN, c'est des militaires, point barre. En revanche, l'Europe, elle peut le faire, parce que l'Europe, elle a un gros budget en matière d'aide au développement. Vous savez que l'Europe est la plus grande contributrice à l'aide au développement aux pays défavorisés. L'Europe est une grande puissance commerciale qui, quand elle décide de négocier des accords commerciaux avec des pays, peut donner un certain nombre d'avantages. L'Europe est une grande puissance humanitaire. On a beaucoup d'ONG extrêmement bien développées, extrêmement performantes. L'Europe peut être aussi une puissance militaire, il faut bien le dire, le cas échéant, puisque si on met en commun nos capacités, on est capable de faire des choses. Donc voilà pourquoi l'Europe se sent quand même un rôle de plus en plus important en matière de défense et de sécurité. Mais une fois qu'on a dit ça, ça semble un tableau, on se dit, bah voilà, il n'y a plus de complexe à avoir, on peut jouer dans la cour des grands, on est capable de faire. Pourquoi ça ne marche pas si bien que ça et quelles sont les limites? Ben, je dirais qu'il y a deux grandes limites. Il y a une grande limite politique, c'est d'abord que tous les États européens ne veulent pas ça. Il y a un certain nombre d'États européens qui considèrent que, d'abord, soit parce qu'ils sont petits, soit parce qu'ils sont tout petits, soit parce qu'ils sont neutres, comme je vous l'ai dit, ou soit parce que leur tradition, c'est pas d'intervenir à l'extérieur de leurs frontières, ces pays-là disent, oulala, la sécurité et la défense dans le monde, bon, c'est sans doute un très beau thème, c'est très noble, mais on n'est pas armé pour ça, ça va nous prendre beaucoup d'argent, ça va nous prendre beaucoup de ressources, nous, on s'en remet à l'OTAN, on s'en remet aux Américains, ils s'occupent de ça, c'est beaucoup mieux comme ça. Les pays qui font ça, c'est pour de bonnes raisons. Soit c'est des raisons un peu idéologiques, comme tous les anciens pays de l'Est, qui se sont tournés très vite vers les États-Unis en se disant « Bon, nous, on sort de la domination soviétique. Les seuls qui peuvent nous défendre contre un retour de l'expansionnisme russe, bah, c'est les Américains. Donc, c'est l'OTAN, c'est très bien. » Ça peut être pour des raisons budgétaires et économiques. Je Je pense aux petits États baltes, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie. Vous savez, c'est des pays de 1,5 million, 2 millions, 3 millions d'habitants qui ont des budgets de défense ou de sécurité minuscules. Ils disent de toute façon, nous, si les Russes nous en veulent, rien qu'avec nos capacités de défense à nous, on ne peut rien. L'Europe, on s'en méfie, elle n'a rien fait pour nous en 1939. Les seuls qui peuvent vraiment nous défendre, c'est les Américains. Donc, on va cotiser au budget de l'OTAN et puis comme ça, on sera tranquille, on a une grosse machine derrière nous. C'est des raisons qui sont compréhensible et tout à fait respectable. Simplement, ça n'aide pas l'Europe à se doter d'une vraie cohésion en la matière. Puis la deuxième raison, donc il y a des raisons politiques comme ça. Il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas trop envie de cotiser à un pot commun européen pour bâtir une défense européenne. Ils s'en remettent aux États-Unis, ils s'en remettent à eux-mêmes. Vous savez, les Suédois, les Autrichiens, ils disent bah, « nous, on est neutre, hein, on n'a pas de problème, donc si on ne vient pas nous chercher, on ne va pas aller chercher les autres ailleurs. » Voilà. Jusqu'au jour où il arrive un problème aussi chez eux. Mais bon, passons. L'autre raison, l'autre principale raison, après la raison politique, c'est la raison économique. Alors évidemment, en ce moment, il y a la crise. Alors c'est particulièrement aigu. Mais vous savez que même sans la crise, depuis 15 ans, les budgets de défense et de sécurité en Europe décroissent considérablement. Et aucun pays en Europe... Vous savez que le budget américain de défense... Et quand je dis défense, c'est pas que l'armée stricto sensu, hein, c'est pas que les armes qui tuent stricto sensu, c'est tout le budget de sécurité et de défense. Le budget de sécurité et de défense américain, dans son ensemble, qui doit approcher les 500 milliards de dollars, tous les 27 pays européens entre eux, c'est la moitié de tout ça. C'est même pas la moitié. Donc ça veut dire que quand on met les 27 pays européens ensemble, tout leur budget militaire, leur budget de défense, leur capacité, c'est même pas la moitié de ce que font les États-Unis dans cette matière-là. Donc on est un tout petit acteur. Et on l'est de plus en plus, parce qu'on n'a pas les moyens. Et vous voyez bien, en période de crise particulièrement, l'exemple grec est frappant, hein, les Grecs étaient le pays d'Europe qui consacrait le plus en pourcentage de leur PIB à la défense, c'était 4%. Parce qu'ils ont des problèmes avec la Turquie, parce que voilà, Chypre, bon. Et donc, là, ils sont obligés de faire des coupes budgétaires drastiques. Le budget de la défense est le premier exposé. Donc, ils vont complètement décroître. Mais tous les budgets européens, il n'y a que la France et la Grande-Bretagne qui ont des vrais budgets européens de défense. Et il n'y a que la France et la Grande-Bretagne qui sont capables de déployer des avions, des bateaux, des hommes, des chars, un peu partout. Les autres pays, vous savez, même l'Allemagne, qui est un grand pays militaire, hein, il faut pas, même si leurs armées sont très sous contrôle américain, l'Allemagne est un petit pays en termes de budget et de capacité de défense. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème, c'est-à-dire que même si on décide de faire des choses ensemble, par exemple quand on a décidé d'intervenir au Tchad, d'envoyer 2-3 000 hommes au Tchad, ben, on a eu des problèmes d'hélicoptères, on a eu des problèmes de transport de troupes, on a eu des problèmes de renseignement au niveau satellitaire. Et là, on est obligé de faire appel à l'OTAN, parce qu'on n'a pas les capacités européennes propres. Et ça reste un problème, ça reste une limite tout à fait objective à l'ambition d'avoir une politique européenne autonome. Alors voilà un petit peu le tableau. Alors qu'est-ce que nous, on fait ? Qu'est-ce qu'on fait par rapport au Parlement européen ? Parce que, donc il y a cette politique quand même européenne qui existe, même si elle est modeste, elle existe. Et donc ce que je vous avais appelé tout à l'heure la PESD, la politique européenne de sécurité et de défense, est devenue avec le traité de Lisbonne ce qu'on appelle la politique de sécurité et de défense commune. Alors vous allez me dire, bon, tout ça c'est des sigles, c'est des mots, c'est de la sémantique, et vous avez raison. Sauf que dans ce domaine-là, tous les mots ont un sens, et vous savez qu'on passe des heures et des heures à débattre sur le sens des mots et exactement ce qu'on met. Quand il faut se trouver à 27 d'accord sur ces sujets-là, vous savez, c'est compliqué. Quand on dit la politique de sécurité et de défense commune, on a franchi un grand pas. Parce que dedans, il y a le mot « commune », qui n'était pas dans le mot « politique européenne de sécurité et de défense ». Ça voulait dire que la politique qu'on avait avant, elle pouvait ne pas être vraiment commune. On n'était pas forcément d'accord sur les objectifs. Bon, là, ça nous oblige à renforcer un peu plus nos liens. Et ça nous oblige surtout, on a créé dans le traité de Lisbonne quelque chose qui est très important, qu'on appelle la clause d'assistance. C'est-à-dire que si un des pays de l'Union européenne est attaqué, les autres pays de l'Union européenne ont le devoir de lui porter assistance. Et cette clause-là, elle n'existait avant que dans l'OTAN. Dans l'OTAN, c'est ce qu'on appelle l'article 5. Si un pays est attaqué, c'est ce qui faisait l'originalité de l'OTAN, si un pays de l'OTAN est attaqué, les autres sont obligés d'aller le défendre. Et c'était très dissuasif, évidemment. Et là, pour la première fois, l'Union européenne s'est dotée aussi de cette clause. Alors ça reste très théorique, ça reste très virtuel. Mais enfin, on a quand même franchi un pas qualitatif pour essayer de se doter d'une réponse commune un peu plus robuste en cas de problème. Et puis au niveau politique, il y a quand même eu beaucoup d'initiatives. pour essayer de faire converger nos politiques, c'est-à-dire essayer de trouver des intérêts communs. Parce que, franchement, je peux vous dire que tous les jours, à Bruxelles ou à Strasbourg, quand vous débattez avec vos collègues, ben vous vous rendez compte de quoi? Et on a eu un débat, par exemple, très intéressant la semaine dernière sur l'Union pour la Méditerranée. Alors nous, Français, avec les Espagnols, les Grecs, les Italiens, nous disons, l'espace méditerranéen est un espace très important. Et c'est un espace problématique. Beaucoup de conflits se passent autour de la Méditerranée. Évidemment, Israël-Palestine, mais on sait aussi les conflits au Sahara entre les Marocains et les Sahraouis. On voit bien le problème de Chypre. Bon, beaucoup de Syrie-Israël, le Liban. Donc, beaucoup de conflits existent autour de la Méditerranée. Mais au-delà de ces conflits entre États, la Méditerranée est une zone extrêmement importante en termes commerciaux, en termes de trafic. On voit bien les vagues d'immigration qui arrivent en Grèce, qui arrive en Italie, qui arrive sur nos côtes aussi. L'exemple qu'on a eu, nous, il faut bien se rendre compte que l'exemple qu'on a eu il n'y a pas longtemps en Corse, où il y a une vingtaine de Kurdes qui ont été débarqués, il faut savoir que les Grecs, ils vivent ça tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, à l'échelle 10. Des Kurdes, des Afghans, qui débarquent. Les Espagnols, les côtes espagnoles, depuis le Maroc, c'est une zone de transit incroyable. Alors, il y a la migration humaine, il y a les drogues, il y a les trafics d'armes. Donc, la Méditerranée est une zone névralgique pour l'Europe. Mais quand on dit ça, nous, on a à côté de nous les Polonais, les Tchèques, qui nous regardent en disant « Vous êtes gentils avec votre Méditerranée, mais le vrai problème, c'est à l'Est, c'est la Biélorussie, la Russie. » Puis vous avez les Baltes, les Finnois, les Danois qui disent bah, « Vous êtes bien gentils avec votre Méditerranée, mais nous, on a beaucoup de problèmes en mer Baltique aussi, on a de la pollution, on a... Alors où est-ce qu'on met le budget? Où est-ce qu'on met les moyens ?» Et vous voyez que si on laisse un peu faire comme ça, si on n'essaye pas de trouver un dénominateur commun, chacun repart dans son coin. Et on ne trouve pas de... Quand on dit en Europe bah, « Là, il faut intervenir en Somalie », moi, j'ai des collègues danois qui me tombent sur le dos et qui me disent ouais, « Vous êtes bien gentil avec votre Somalie, mais nous, on n'a pas de navire danois au large de la Somalie. C'est pour protéger vos pêcheurs à vous, c'est pour protéger votre trafic de pétrole, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la pêche au large de l'Islande. » Donc, vous voyez bien que l'Europe, c'est quand même très compliqué à faire vivre parce que chacun a ses intérêts. C'est la diversité, on dit ça, bon, l'union dans la diversité. Alors, il faut trouver des intérêts communs. Et là où c'est intéressant en matière de défense, c'est que de plus en plus, on trouve des intérêts communs malgré tout. Parce que la situation que je viens de vous décrire, c'est un peu la caricature dont on essaye de sortir. Et il y a de plus en plus d'intérêts communs, pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le terrorisme. Le terrorisme, il s'attaque indistinctement aux Anglais, aux Espagnols. Quand il y a eu les caricatures contre le prophète Mahomet au Danemark, les Danois se sont fait attaquer leurs... Les Danois, il n'y a pas plus pacifique au monde que les Danois, vous savez, les Danois, ils se sont rendus compte qu'ils étaient vulnérables, parce qu'il y a un type dans un journal qui a dessiné Mahomet avec un turban et une bombe, et bien ils se sont fait attaquer leurs ambassades un peu partout dans le monde arabe. Et là, ils se sont tournés vers l'Europe en disant « Il faut une réponse européenne à ce problème ». Ben oui. Et il y a effectivement que l'Europe qui peut apporter une réponse globale. Les Polonais, pendant longtemps, ils n'ont eu qu'une obsession, c'était la Russie. Puis un jour, on leur a parlé d'Afrique, on leur a dit « Vous savez, il y a quand même des zones problématiques en Afrique ». Ils ont dit « Ça nous intéresse d'aller voir avec vous ». C'est eux qui ont pris le commandement des opérations militaires au Tchad. Et tous les officiers polonais qui ont rentré du Tchad, ils ont dit que c'était une excellente expérience. C'était une excellente expérience. D'abord, on a appris à travailler avec d'autres pays, ce qui ne leur arrivait pas avant, au-delà du pacte de Varsovie. Puis ils ont dit, nous, on a découvert un nouvel univers. Et on a vu que nous, Polonais, on n'était pas à l'abri ni de l'immigration, ni des trafics de drogue, ni des problèmes humanitaires. Il faut qu'on contribue. Si on veut être un grand pays qui pèse en Europe et dans le monde, il faut qu'on joue notre rôle. Et l'Europe, ça aide à ça parce que ça vous ouvre à de nouvelles perspectives. Et donc l'Europe, c'est quand même de la mutualisation. Des choses qu'on ne pourrait pas faire tout seul, on peut arriver à les faire à plusieurs de façon plus efficace. Simplement, il faut convaincre les autres du bien fondé de tout ça. Pour nous, Français, ça paraît évident. Parce que nous, Français, on s'est toujours perçus comme ayant un rôle mondial. Les Français, les Anglais, puis un petit peu les Allemands, on a toujours dit, parce qu'on a eu des colonies, parce qu'on a une puissance globale, parce qu'on a été une grande puissance économique, on a toujours considéré normal d'intervenir ou de s'intéresser partout dans le monde. On a le deuxième réseau diplomatique mondial, on a des ambassades dans chaque pays. Ça nous paraît logique. Mais il faut bien se mettre à la place des autres pays, soit parce qu'ils sont neutres, soit parce qu'ils sont petits, soit parce qu'ils n'ont jamais eu envie de s'occuper d'autre chose, ou parce qu'ils avaient les écrans radars tournés vers d'autres pays. Quand on dit aux Polonais, quand on dit aux Danois « Intéressez-vous à l'Afrique », quand on dit aux Portugais « Intéressez-vous à la Biélorussie », tout ça, ça prend du temps. Il faut de la persuasion, il faut de la conviction, mais on est dans un monde aujourd'hui, c'est bateau de le dire, mais on est dans un monde globalisé, et les menaces, il n'y a pas que le commerce qui est globalisé, les menaces sont globalisées aussi. Le danger, il vient de partout. Et l'insécurité, elle vient de partout. Et donc, vous savez, en ce moment, on parle beaucoup de la bombe nucléaire iranienne, enfin, le programme nucléaire iranien dont on pense qu'il est militaire. Ben, vous savez, le jour où l'Iran aura la bombe nucléaire, ça menacera que vous soyez roumain, polonais, français ou portugais, ça ne change rien. Vous êtes sous la même menace. Et ça c'est quand même très nouveau. Je veux dire, il y a 10-15 ans, on n'avait pas ce genre de problématique. Il n'y avait pas du tout ce genre de perception que tout le monde était un peu logé à la même enseigne en termes de vulnérabilité et de menace. Et ça progresse beaucoup. Et donc, les pays européens, maintenant, ont quand même, sur un certain nombre de sujets, essayé de développer des approches communes. Donc voilà ce que nous, on fait au niveau du Parlement européen. On essaye d'attirer l'attention, d'abord, en termes d'information. Moi, mon rôle en tant que président de cette commission de la défense, c'est d'organiser un maximum de débats sur des sujets comme ça sensibles. Alors on a organisé des débats sur la menace nucléaire, on organise des débats sur la menace évidemment terroriste, on organise des débats sur justement quel type de réponse on peut apporter aux crises dans le monde, comment les militaires et les civils doivent travailler ensemble, comment l'humanitaire et le militaire peuvent essayer d'être complémentaires. On essaie de trouver, d'alimenter un débat là-dessus et de proposer des choses, de proposer aux dirigeants de l'Union européenne des solutions. Et c'était le but, M. Fournier a parlé tout à l'heure de mon rapport. Une fois par an, le Parlement européen produit un rapport qui est à la fois un bilan critique, j'allais dire, de ce qui est fait par l'Europe. Donc on reprend en détail tout ce que l'Europe a fait depuis un an sur le plan de la sécurité, de la défense, des affaires étrangères, en émettant une opinion. Est-ce qu'on a bien réussi, pas réussi, ce qu'il faut améliorer, pas améliorer. Et puis on fait des propositions. Qu'est-ce qui serait bon pour l'Europe? Pour nos pays européens, est-ce qu'il est bon de se doter de plus de capacités en hélicoptère? Est-ce qu'il est bon de mettre un peu plus d'argent sur la recherche pour développer des programmes satellitaires? Est-ce qu'il est bon que l'Europe avance à 27 ou simplement à un groupe de pays pour intervenir dans telle partie du monde? Voilà ce dont moi j'ai été chargé cette année. Donc j'ai passé beaucoup de temps à établir un rapport. D'ailleurs, j'aurais dû l'amener, mais je crois qu'on peut le trouver assez facilement sur Internet. Voilà, donc on fait un rapport. Il y a une centaine de propositions dans ce rapport. Et le but est d'essayer d'avoir un rapport voté aussi largement que possible. Et ce qui est assez intéressant au Parlement européen, et je terminerai là-dessus, c'est qu'on a des... on n'a pas des oppositions politiques aussi caricaturales que dans chacun des pays. Au Parlement européen, en fait... La première chose que vous regardez quand vous discutez avec les gens, c'est pas leur étiquette politique. Et ça, c'est assez agréable, c'est-à-dire. Moi, j'ai aucun complexe, hein. Je fais de la politique, j'en fais ici, j'ai un bord bien affirmé, j'appartiens à un parti politique et j'en ai absolument pas honte, loin de là. Mais ce qui est quand même très agréable au Parlement européen, c'est que sur des questions, j'allais dire, d'intérêt général comme celle-ci, c'est pas la première chose qu'on regarde. Et moi, je me suis rendu compte quand... Vous savez, sur mon rapport, je vous dis, il y a une centaine d'articles et de propositions. J'ai eu 230 amendements, 232, c'est-à-dire des corrections ou des gens qui voulaient introduire des nuances. Quand on regarde tout ça, après, on fait des compromis. Un par un, on a passé des heures sur chaque amendement pour savoir si c'était bien, pas bien. Moi, j'en ai accepté beaucoup. J'en ai accepté beaucoup qui venaient des écologistes. J'en ai accepté beaucoup qui venaient des socialistes. Et je me suis rendu compte que finalement, ceux avec qui j'avais eu le plus de mal à travailler, c'était les gens de mon propre groupe politique. Voilà. Donc les gens de droite, de centre-droit européen, c'est ceux avec lesquels j'ai eu le plus de mal à faire accepter mon texte. Alors que les socialistes ont voté comme un seul homme mon texte, qui leur convenait bien. Sauf les socialistes français qui étaient un peu plus réticents, mais les autres, on s'est bien entendu. Bon, c'est toujours des choses qu'il faut s'expliquer, mais bon, c'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Mais par exemple, j'avais deux collègues, une socialiste grecque et un socialiste italien, que j'avais juste avant d'entrer dans la salle, parce que mon collègue socialiste italien, il est en train de se débattre en ce moment sur des histoires de budget de défense, justement. C'est lui qui est responsable pour les histoires de budget de défense. Il m'appelait, il me dit, il faut que tu me soutiennes. Voilà, mais le problème, moi, qu'il soit socialiste, je m'en fiche. Qu'il soit italien, je m'en fiche. Les idées qu'il a proposées au niveau européen, je les trouve valables. Elles sont bonnes pour nous, pour l'Europe, pour nos citoyens. C'est ça qui compte. Et ça, au niveau européen, c'est quand même assez agréable. Et on a réussi à faire voter ce rapport à 480 voix. Et on a eu 111 opposants qui étaient les communistes, grosso modo les communistes et l'extrême droite, mais qui eux, par définition, pour des raisons différentes, les communistes considèrent qu'il n'y a pas besoin de défense européenne, parce que qui dit défense européenne dit des militaires, dit des budgets pour la défense, et ils sont, j'allais dire, pacifistes un point totalement radical. Donc pour eux, dès qu'il y a un militaire européen, on a beau leur expliquer que les militaires européens sont aussi là pour arrêter des guerres ou pour rendre service à des populations, ils ne veulent pas en entendre parler parce que c'est des militaires. Donc bon, donc eux, ils ont voté contre par principe. Ils n'ont même pas écouté mon texte, ils n'ont même pas lu mon texte. Ils m'ont dit, nous, on est contre. On a vu qu'il y avait 2 articles dans votre texte sur 100 qui parlaient des militaires. On ne veut pas de militaires, donc on vote contre. Bon, c'est leur position de principe, ils ont le droit. Et puis l'extrême droite, parce que les groupes d'extrême droite au Parlement européen, bon, ils ne sont pas très puissants, mais il y en a un petit peu des Français, il y a un petit peu des Anglais, eux, ils considèrent que la défense, ça doit rester strictement dans les pays. Et ils ne veulent pas que la France participe soit avec l'Allemagne, soit avec... Voilà, ils considèrent que la France doit faire les choses de façon française, que c'est surtout les Anglais, je dois dire. Là, je dis les Français, mais il n'y en a pas tant que ça. Les Anglais, les conservateurs anglais, c'est d'ailleurs pas l'extrême droite, il faut être... J'ai fait une erreur de langage. C'est les conservateurs anglais, ceux qui ont peut-être gagné les élections dans l'Angleterre aujourd'hui, dont je me méfie un petit peu. Ces conservateurs anglais, en matière de défense, ils sont extrêmement frileux et ils considèrent que les Anglais doivent faire des opérations uniquement avec les Américains, comme en Afghanistan ou en Irak, mais surtout pas avec les autres Européens. Ils ne prennent pas les autres Européens au sérieux. Voilà. Donc voilà, on a des oppositions comme ça. Mais pour le reste, on a eu une assez grande majorité. Ce qu'on proposait, donc il y avait une lecture critique de ce qui était fait, puis ce qu'on proposait, c'était des choses qui me paraissent moins de bon sens, en termes de mutualisation de moyens, et ça concernait d'ailleurs, on s'appelle sécurité et défense, parce qu'on ne fait pas que de la défense, encore une fois au sens militaire du terme, mais on fait de la sécurité, et par exemple, nous, une des grandes idées, et là, moi, je viens d'avoir un nouveau rapport du Parlement européen, sur lequel je vais travailler maintenant, qui est la création d'une force de protection civile au niveau européen, pour faire face aux désastres naturels. Pollution, comme les marées noires, feux de forêt, comme on en a tous les ans en Grèce, mais aussi en France, d'ailleurs, ce genre d'inondations catastrophiques ou bien les tempêtes, c'est de dire, voilà, de plus en plus, ces phénomènes naturels créent des catastrophes colossales et il serait bon que par rapport à certains pays qui n'ont pas les moyens de mettre des réponses en œuvre, l'Europe puisse apporter une aide qui ne soit pas simplement une aide financière, mais qui soit aussi le déploiement, ou en Haïti par exemple, plutôt que chaque pays intervienne un peu laborieusement dans son coin, et puis que les États-Unis, encore une fois, eux, arrivent avec la grosse armada, que nous, au niveau européen, on ait une espèce de sécurité civile européenne qui soit déployable un peu plus facilement. Donc ça, c'est par exemple un sujet qu'il y avait dans mon rapport et qu'on va essayer de développer. Donc vous voyez que ce n'est pas que des questions strictement militaires. Voilà, j'ai parlé un peu trop longuement. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Et puis,
bravo.
Voilà un petit peu.
Dans un jeu télévisé, je fais comme ça et tout le monde applaudit. Bien, donc on arrive à la séquence. Comment ?
On n'a pas besoin que vous le fassiez, on applaudit tout seul.
Bien sûr, bien sûr. Je blague, bien sûr. Tout le monde a compris. Donc on arrive à la séquence des questions et réponses, bien sûr. Donc,
peut-être, peut-être les réponses.
Je sais pas. Oui,
peut-être
que je les aurai pas. Je vous fais confiance. Donc y a-t-il des questions ? Une question, la première. Ah, voilà, une question. Il y a une première question. D'habitude, on passe tout de suite à la seconde.
C'est vrai.
Mais le... voilà. Merci. Attendez, on va...
Ah, c'est une bonne question.
Où en est Galiléo ?
Alors, Galiléo, pour remettre dans le contexte, c'est ce programme satellitaire européen qui vise à doter l'Europe de moyens autonomes en matière de localisation géosatellitaire, c'est-à-dire le GPS, en fait. Hein. Le GPS que vous connaissez peut-être tous maintenant est américain. Galileo, c'est le programme européen. Galileo a connu qui est un programme extrêmement ambitieux, moi je pense que c'est un programme tout à fait indispensable pour avoir une forme d'autonomie stratégique de l'Union européenne, a connu des difficultés notamment de financement. Et donc Galileo, maintenant, se pose le problème de son financement et de son développement. Et c'est intéressant parce que c'est une question qu'on va débattre prochainement au Parlement européen, c'est comment on trouve des fonds pour Galileo. Alors Galileo, il y a un débat, alors il y a deux questions qui se posent sur Galileo. La première question, c'est effectivement le financement. Il faut mettre beaucoup d'argent, c'est plusieurs milliards d'euros, particulièrement en temps de crise, qui met au pot pour le développement de Galileo. Est-ce que ça vaut encore la peine ? Il y a beaucoup de groupes politiques qui pensent qu'il faut abandonner Galileo, que ça ne vaut pas la peine et tout. Bon, moi, je fais partie des gens qui pensent que ça vaut quand même, le coup. Qu'on ne peut pas être dépendant, parce que les Chinois développent des choses maintenant à vitesse grand V, on ne peut pas être dépendant en permanence sur le plan satellitaire des Américains et des Chinois. Je pense qu'il faut qu'on ait quand même quelque chose, un instrument européen. Donc le premier débat, c'est de savoir s'il faut le maintenir ou non au regard de son coût. Et la deuxième question qui se pose, c'est de dire, voilà, Le coût est un vrai problème, mais une façon de réduire les coûts de Galiléo, c'est d'étendre l'usage de Galiléo, et notamment un usage en matière de défense. Et évidemment, parce que tout ce qui est géosatellitaire, il y a un intérêt évident en matière de défense. Et là, l'idée, c'est quand même que les gouvernements puissent, plutôt que ce soit l'Europe sur ses fonds propres, qui ne sont pas très élevés, hein, qui doivent payer l'entièreté du programme, ça serait que les gouvernements puissent aussi puiser dans leur budget défense pour alimenter le budget Galiléo. Alors là, ça pose un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est que l'opposition, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, l'opposition d'un certain nombre de groupes politiques qui disent « Ah là là, Galiléo, nous, on veut bien que ça soit civil pour vous aider à circuler, pour aider les agriculteurs à recenser leurs parcelles, que je ne sais encore, mais on ne veut surtout pas qu'il y ait des implications militaires. » Et puis il y a ceux qui disent bah, « Nous, on veut bien que ça soit militaire, mais pas trop, et puis donc il faut limiter le budget. » Puis il y a ceux qui disent bah, « Nous, on veut bien que ça soit militaire, mais on ne veut pas que les États participent. » Donc voilà, on est en plein dans ce débat-là. L'issue la plus vraisemblable sur Galiléo, c'est qu'on n'abandonnera pas Galiléo, c'est qu'on trouvera des ressources pour le financer, et qu'on autorisera un usage, ce qu'on appelle un usage dual, c'est-à-dire évidemment... 90% de l'activité de Galiléo sera dédiée à des programmes civils et de circulation, de projection sur plein de domaines civils, mais qu'on autorisera aussi une utilisation, peut-être pas militaire en tant que telle, mais en matière de défense, notamment pour les opérations européennes. Je vous ai dit qu'il y avait 13 opérations européennes actuellement qui sont menées dans le monde. Ces opérations, elles ont besoin de données satellitaires. Un exemple, Atalanta, donc la mission qui lutte contre les pirates, ben vous pouvez utiliser autant de bateaux que vous voulez pour lutter contre les pirates dans une zone aussi vaste que l'océan Indien et le golfe d'Aden. Quand vous avez une aide satellitaire pour faire un certain nombre de relevés, c'est quand même très utile. Bon, ben, il faudrait que Galiléo puisse avoir un usage pour ce genre d'opération, et ce genre d'opération permet aux pays qui participent de participer aussi financièrement, et ça soulage un peu le budget européen en matière de Galiléo, parce que vous savez qu'il y a eu une grande polémique, parce qu'une partie des fonds, qui ont été nécessaires pour sauver Galiléo ont été prétendument pris sur le budget de la politique agricole commune, par exemple. Et ça, c'est un grand... Alors, c'était pas aussi massif que ça a été dit ça et là, mais c'est vrai que moi, j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs, par exemple, qui m'ont dit « Mais on nous dit qu'il n'y a plus assez d'argent pour sauver la filière du lait ou des choses comme ça, mais par contre, on trouve des budgets... Dans les budgets agricoles, on trouve de l'argent pour mettre dans Galiléo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Mais c'est vrai que le budget de l'Union européenne, vous savez, il est très faible en propre, puisque c'est 1% du budget de chaque pays, grosso modo, qui va à l'Union européenne. Donc vous voyez que c'est quand même très faible. Et ça sert essentiellement à la politique agricole, qui absorbe la moitié du budget européen. Donc voilà, Galiléo, il va y avoir, j'allais dire, une relance de Galiléo. Il y a des grands débats qui sont prévus à l'automne sur Galiléo pour savoir exactement ce qu'on va en faire, qui va mettre, quel argent on va mettre. Et c'est vrai que je pense que c'est un beau programme. D'abord, technologiquement aussi, c'est un bel enjeu. Mais c'est vrai que les innovations technologiques dans ce genre de domaine, ça coûte toujours très cher, et il faut que ça soit des puissances publiques qui mettent de l'argent. Mais je pense qu'on arrivera non seulement à sauver ce programme, mais à le faire vraiment développer, et j'espère qu'on tuera pas son aspect défense, qui nous permet d'avoir un peu plus de budget, puis qui nous permet aussi de l'utiliser justement pour défendre nos intérêts dans le monde. Je crois que c'est quand même un beau programme.
L'agriculture se sert de plus en plus du GPS déjà.
Oui, absolument. Absolument. J'étais d'ailleurs cette semaine, j'ai eu une réunion avec des chercheurs. Il y a ce qu'on appelle le Joint, je ne sais plus comment, le Centre de Recherche Conjoint, le Joint Research Center, JRC, donc qui regroupe une dizaine de centres de recherche européens, dont la principale localisation est en Italie, et je suis allé voir ce qu'ils faisaient. Et notamment, ils travaillent avec des données satellitaires, et c'est eux qui mettent à disposition de chacun des pays tous les outils satellitaires pour recenser, puisque les aides agricoles, pour leurs calculs, ben, on utilise des images satellites, absolument.
Et à quand un porte-avions franco-anglais ?
Bonne question. Bonne question. Il est clair qu'on n'a plus les moyens seuls de faire un porte-avions, et Dieu sait pourtant que les porte-avions, c'est utile. Mais on en a un, le Charles de Gaulle, vous le savez. Les Anglais ont aussi des portes aéronefs, parce que ce n'est pas des porte-avions exactement comme les Français. Vous savez que les appareils anglais ne décollent pas comme les appareils français ou américains comme ça, ils décollent à la verticale. Donc ce sont des portes aéronefs, et évidemment ça coûte très 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 cher. Et c'est des programmes qui doivent se développer sur 15 ans en matière. Un programme d'armement aussi ambitieux, c'est 15 ans. Entre la recherche, la conception et puis la finalisation, c'est minimum 15 ans. Ça coûte très cher. Et donc on n'a pas les moyens de le faire seul, et l'idée c'était de le faire avec la seule autre puissance aéronavale européenne, c'est-à-dire les Anglais. Alors les Anglais sont toujours très réticents à développer des programmes en commun, évidemment. Paradoxalement, on va voir avec le nouveau gouvernement, on verra ce qui se fera en Angleterre avec le nouveau gouvernement, mais il n'est pas exclu qu'on y arrive avec le nouveau gouvernement. Pourquoi ? Parce que le nouveau gouvernement anglais, s'il est conservateur, les conservateurs britanniques, je vous l'ai dit, sont très hostiles à avoir une politique européenne. Ils ne veulent pas partager avec tout le monde, ils ne veulent pas se mettre au pot commun avec tous les Européens, mais par contre, ils respectent beaucoup ceux dont ils estiment qu'ils sont à peu près à leur niveau. Et le seul pays qu'ils estiment à peu près à leur niveau, au niveau militaire en Europe, c'est la France. Et donc les Anglais, ils disent le bilatéral, c'est-à-dire entre nous deux pays, on veut bien faire, on peut faire. Au niveau européen, on est plus réticent. Alors il n'est pas exclu qu'on remette, j'allais dire, les compteurs à zéro. Vous savez qu'en 1998, il y a eu ce qu'on a appelé les accords de Saint-Malo, entre Tony Blair et Jacques Chirac à l'époque, qui était un accord franco-britannique pour relancer l'Europe de la défense. C'était une initiative incroyable. C'est d'ailleurs un des facteurs que j'ai oublié. Je vous ai dit que c'est en 1999-2000 qu'on avait commencé à créer une politique européenne commune. Et c'est en partie grâce à cet accord Blair-Chirac, accord de Saint-Malo, entre les Français et les Anglais, pour essayer de donner une impulsion à l'Europe de la défense. Alors je ne pense pas qu'on aura un nouveau Saint-Malo, mais je pense que sur certains programmes spécifiques, on pourra peut-être s'entendre avec les Anglais pour dire, écoutez, voilà, on est les deux seuls pays qui avons des intérêts communs comme ça à bâtir des équipements communs, il faut qu'on y arrive. Honnêtement, je suis un peu sceptique quand même, je pense que c'est pas à court terme, malheureusement. Moi, je le déplore parce que ça serait la bonne combinaison. Mais on a au niveau européen, mais vous faites bien de poser la question, parce qu'on a au niveau européen ce qu'on appelle l'Agence européenne de défense. Ça aussi, c'est quelque chose qui est nouveau, qui existe depuis 6 ans maintenant. L'Agence européenne de défense est une agence où il y a les 27 pays de l'Union européenne, plus certains autres pays du bord de l'Europe qui participent pour justement développer des programmes de recherche en matière de défense communs. Travailler ensemble sur, par exemple, des projets d'hélicoptères. Travailler ensemble sur... Parce que quand vous regardez en Europe aujourd'hui, vous avez par exemple une quinzaine de programmes de chars. 15. En Europe, c'est absurde. Vous imaginez les sommes qui sont englouties par chacun des pays qui développent leurs programmes de chars. On a 6 programmes de sous-marins. On a 3 programmes d'avions de combat. Donc quand même, l'idée de l'Agence européenne de défense, c'est de dire, bon, attendez, dans tout ça, là, on va prendre tout ça un par un, puis on va voir si on ne peut pas faire des économies un peu d'échelle, et puis essayer de ramener ça à des programmes européens. Et donc, typiquement, l'Agence européenne de défense essaye de mutualiser les coûts et les programmes en matière de recherche militaire, parce qu'encore une fois, avant de développer un équipement, il faut déjà faire de la recherche, ça coûte très cher, et ce que vous développez aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr que dans 10 ans, ça ne sera pas obsolète. Donc il faut que vous vous concentriez sur des programmes qui aient une durée de vie minimum de 15 ans. Entre le moment où on va démarrer la conception d'un avion de combat et sa sortie des usines et son utilisation par des flottes aériennes, il faut pratiquement 15 ans. Donc vous êtes obligé de vous projeter 15 ans. Donc en matière de recherche, de coûts de développement, c'est colossal. Donc il faut arriver à faire des économies et à mutualiser tout ça. Et donc l'Agence européenne de défense est là pour ça. Et là où je reviens à votre question, c'est que les Anglais, par exemple, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas participer à cette agence. Et ils le font, mais du bout des doigts. Et du coup, les conservateurs britanniques, M. Cameron avait annoncé que si jamais il gagnait, il se retirerait de l'Agence européenne de défense. Parce qu'il estimait que ce n'était pas la peine de mettre tout ça en commun avec d'autres pays dont il estime que, bon, ils sont des acteurs minimaux. Mais je pense qu'il ne le fera pas. Je pense que c'était un peu de la rhétorique pour les élections. Vous savez, le public anglais, il est très eurosceptique. Donc dès qu'un dirigeant britannique prend une initiative un peu forte contre l'Europe, il est très populaire tout d'un coup, mais je ne pense pas qu'il le fera à l'arrivée. Mais bon, il faudrait qu'on arrive à mutualiser quand même. Il y a le porte-avions, bien sûr, mais il y a plein d'autres choses. Bon, il y a quand même beaucoup d'économies à faire.
Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes des Balkans, comme il est écrit sur le net. Vous êtes professeur conférencier à Sciences Po, aussi à Dijon. Vous travaillez plus de 12 ans avec Garnier et Gustave Blasi. Et il semblerait même que vous soyez un ami de Hashim Thaçi, le premier ministre du Kosovo.
Ouais.
Vous êtes allé, je crois, c'est à Pristina, pour la l'indépendance, puis ensuite l'alliance Slovénie, etc., etc. Si on regarde bien la carte du Kosovo, on voit que tout en haut, il y a une partie serbe. Vous avez le reste, quelques petites enclaves, ciganes, avec des ciganes.
Serbes aussi.
Vous avez 90% en gros
d'Albanais.
Et quand on regarde nos collègues qui aujourd'hui sont des réfugiés du Kosovo en France, qui ont la nationalité française, ces gens-là ont été spoliés. Alors, je vous ai préparé une supplique que je vous donnerai à la fin, si vous le permettez. Mais je voudrais, que pensez-vous, vous dire, que pense faire l'Europe et le gouvernement français pour aider nos concitoyens aujourd'hui français, mais avant-hier kosovars, qui ont dû se sauver de leur pays et qui ont été totalement spoliés?
Alors, c'est un problème qui va bien au-delà du Kosovo, parce que ça concerne toute l'ex-Yougoslavie, en fait. C'est le problème de la succession des États, puisqu'il y avait un État qui était la Yougoslavie. Et qui, non, parce que le même cas se pose en Croatie, le même cas se pose en Bosnie. Bon. Moi, le Kosovo, effectivement, vous savez, j'y ai passé en cumulé presque 4 ans de ma vie, et j'y suis allé 73 fois en tout. J'y suis allé, j'ai fait des séjours qui ont duré 24 heures pour certains d'entre eux et 2 ans pour d'autres. Voilà. Et dans tout ça, il y a 73. Donc moi, je prétends effectivement connaître assez bien le Kosovo. Il m'arrive même de dire que je connais parfois mieux le Kosovo que ma circonscription. Mais non, c'est un trait d'humour. Mais tout ça pour dire, c'est une situation éminemment complexe. Les cas que vous citez, alors je ne sais pas si c'est des cas serbes, roms ou albanais, enfin serbes pour la plupart. Bon, il y a plusieurs cas. Le même cas est en Bosnie d'ailleurs, et le même cas en Croatie. J'étais la semaine dernière en Croatie pour une conférence à Zagreb, dont un des pans était celui-ci aussi. Et donc il n'est pas spécifique au Kosovo. Les populations réfugiées qui ont quitté ces pays en guerre ou quand elles ont été expulsées ont effectivement tout perdu quand elles sont parties. Alors, après, il y a deux cas. Il y a le cas où ces personnes résidaient dans ces provinces, résidaient au titre de l'État et n'étaient pas forcément propriétaires de leur logement, des biens qu'elles possédaient entre guillemets sur place, puisqu'on était sous le régime de la propriété sociale, qui est un concept spécifiquement yougoslave. C'était pas la propriété d'État comme dans les autres pays communistes. Vous savez que la Yougoslavie était un pays communiste atypique, et donc, qui le disait sans vouloir trop le dire, et donc on avait ce qu'on appelait la propriété sociale. La propriété sociale, par exemple, pour des dirigeants d'entreprise, je parle, un Serbe qui dirigeait une entreprise au Kosovo, c'est pas vraiment lui qui la dirigeait, il était nommé par le gouvernement, et l'entreprise, elle appartenait non pas à l'État, mais elle appartenait aux ouvriers, puisqu'on était dans le mode de l'autogestion. Mais les ouvriers avaient été, eux, tous syndiqués au syndicat d'État, et donc, par ricochet, tout ça appartenait à l'État. Et là-dessus, les gens qui ont dû quitter et qui étaient dans ce régime-là, ils perdent tout, ils n'ont rien, et ils n'ont pas de possibilité de compensation. Là, c'est un vrai problème, parce que c'est un régime juridique qui est complètement inconnu, j'allais dire, enfin totalement spécifique. Ça concerne essentiellement les biens économiques. Les biens économiques, mais ça concerne aussi des entreprises françaises qui avaient investi dans des entreprises yougoslaves au Kosovo, par exemple, qui se trouvent maintenant complètement démunies juridiquement pour savoir comment faire. Donc il y a des commissions, effectivement, à l'ONU qui travaillent sur des possibilités de compensation, mais c'est très compliqué. Et puis il y a les individus. Et donc, effectivement, vous êtes serbe du Kosovo, vous perdez votre maison, vous quittez le Kosovo, et là, que se passe-t-il? Et là, les Serbes du Kosovo, ils ont deux options. Je ne parle pas simplement en droit, parce que souvent le droit ne fait qu'entériner après coup des situations vécues extrêmement pénibles. Les Serbes du Kosovo, pour la plupart d'entre eux, ils sont partis en Serbie. Et ils ont laissé tomber tout ce qu'ils avaient au Kosovo. Ils l'ont perdu. Comment ils vont pouvoir récupérer quelque chose? Le Kosovo va être amené à faire ce que la Bosnie a fait également et ce que la Croatie a fait également, c'est-à-dire ce qu'on appelle les compensations. Voilà. Donc il faudra qu'il y ait une loi au Kosovo qui permette la compensation, c'est-à-dire que le Serbe qui avait sa maison au Kosovo puis il était obligé de la quitter, ben, il retournera au Kosovo, j'allais dire il touchera un chèque du gouvernement kosovar pour sa maison. Ça se fait en Bosnie. Pourquoi ça ne se fait pas au Kosovo pour l'instant? Parce que les Serbes considèrent que le Kosovo leur appartient toujours. Donc il n'y a pas d'accord possible entre les deux gouvernements pour mettre un accord. Quand vous voulez compenser, il faut qu'il y ait un accord entre deux. Et là, il n'y a pas d'accord. En Bosnie, il y a un accord, par exemple. Ils se sont mis d'accord entre les trois communautés pour faire de la compensation. Entre la Serbie et la Croatie, vous avez des accords. Parce que c'est deux États indépendants, donc ils ont fait un accord. Donc le Serbe qui avait le même cas de figure, le Serbe de Croatie, qui a quitté la Croatie pendant la guerre pour aller, qui a été chassé de Croatie pendant la guerre, qui s'est retrouvé en Serbie, aujourd'hui, il peut aller en Croatie, j'allais dire passer à la caisse, dire bah, « moi, je veux récupérer ma maison, vendre sa maison, parce qu'il y a un accord de compensation possible, repartir sans occuper sa maison en Serbie. » Au Kosovo, ce n'est pas possible. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord là-dessus, ça va même prendre du temps.
Donc, si la personne a la nationalité française, que fait-on pour les concitoyens qui aujourd'hui sont français? Ils se sont créés français, qui demandent réparation. Que fait-on aujourd'hui? On leur a donné la nationalité française, donc ils sont français.
Oui, d'accord. Mais... Alors, sur ce cas-là, rien ne les empêche d'aller au Kosovo et de porter le cas devant une cour. Le problème, c'est que...
Le problème, c'est qu'ils
ne
reviennent pas vivre.
Non, c'est pas vrai. Moi, vous savez, je vais au Kosovo, je parle serbe. Moi. Vous savez, je ne parle pas albanais, je parle serbe. Et quand je vais au Kosovo, je parle serbe. J'ai jamais eu de problème. Franchement, j'ai jamais eu de problème. Non. Il y a eu des tensions très fortes, mais bon. On peut être serbe et aller au Kosovo aujourd'hui sans se faire trucider. Moi, j'avais des amis serbes avec qui je suis parti au Kosovo. Ma propre petite amie, elle est venue au Kosovo. Elle a un nom plus que serbe. Elle est serbe. Elle est arrivée à la frontière. Tout le monde sait qu'elle est serbe sur son passeport. Même si elle a un passeport français, ça a posé aucun problème. Je veux dire, non, il ne faut pas trop... Non, mais le problème est vrai pour obtenir justice, pour obtenir réparation. Donc, pour ceux qui sont français, ils peuvent aller au Kosovo, porter le cas devant la justice. On est entre nous, donc je vous le dis, je suis effectivement très dubitatif sur le fait que ça aboutisse et que ça aboutisse rapidement. C'est une réalité. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, on est encore entre nous, et je vous le dis, c'est pour ça que je vous dis le droit ne viendra que attester d'une situation de fait. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Les Serbes qui savent qu'ils ne retourneront plus jamais au Kosovo, et singulièrement ceux qui ont obtenu la nationalité d'un pays tiers comme la France ou la Suède ou d'autres, qu'est-ce qu'ils font? S'ils arrivent à retourner au Kosovo ou s'ils veulent y aller, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de trouver un arrangement avec, entre guillemets, l'occupant de leur maison kosovare. Et ils vendent. Le problème, c'est que ceux qui sont déjà partis avant d'avoir vendu, parce qu'ils n'ont pas eu le choix souvent, évidemment, soit ils ne peuvent pas, parce que les Kosovars, ils vont les voir, puis les Kosovars leur disent pas du tout, on a trouvé ce logement inoccupé. Ce qui est souvent vrai d'ailleurs, parce que eux-mêmes sont des réfugiés qui viennent d'ailleurs, donc on leur a donné le logement, on leur a dit le logement est libre. Ils ne savaient même pas que le logement d'avant appartenait à un Serbe qui pourra un jour revenir demander son logement. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui ont pu vendre avant d'être expulsés de partir, ils s'en sont plutôt bien tirés. C'est pour ça qu'ils ont pu racheter quelque chose en Serbie ou ailleurs. Mais ceux qui sont partis sans avoir négocié à l'amiable, entre 10 000 guillemets, parce que c'est de l'amiable sous pression, ils sont dans une situation très, 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 très difficile. Cela étant, moi, je pense que il n'y a pas énormément de cas, mais il y en a. Il n'y a pas énormément de cas. Pour les cas qui sont français, visiblement, vous les connaissez mieux que moi. Pour les cas qui sont français, moi, je pense qu'il y a une issue, puisqu'on a maintenant une mission européenne qui est EULEX, hein, une mission qui supervise la justice et la police du Kosovo. Donc moi, je pense que ces cas méritent d'être portés devant la mission européenne qui s'occupe de ça. Si vous en avez un, je veux bien le soumettre personnellement. Ouais. Je pense que ça vaut la peine, parce que je pense que ça peut faire jurisprudence et je pense que ça peut hâter les choses pour les autres. Mais vous savez, c'était le même problème en Bosnie. Et en Bosnie, on a mis 10 ans pour avoir une loi de compensation. Donc le Kosovo est indépendant depuis 2 ans. Sans avoir la reconnaissance mutuelle, ça va être très, très compliqué. Mais en Bosnie, ça a mis 10 ans. Mais maintenant, ça marche bien. Ça marche bien. Les gens arrivent à se compenser et à trouver des accords. Mais c'est un cas extrêmement épineux, très intéressant. Juridiquement, moi, je ne suis pas juriste, mais juridiquement, c'est un casse-tête absolu. Politiquement, c'est un cas très intéressant. Mais moi, je veux bien le soumettre. Et humainement, évidemment, très pénible. Évidemment, très pénible. Merci. Je vous en prie.
Je pense que 50 ans après, j'ai rapatrié l'Algérie.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Mais ça, c'est le grand drame des conflits. Les conflits, on les voit toujours dans leur... On les voit toujours dans leur immédiateté. Les destructions physiques, les maisons... complètement détruite, on voit les vies perdues, on voit. Mais c'est vrai que les pires séquelles, c'est celle-ci. et qui touche des individus, enfin, des familles, des individus qui ont perdu tout et qui se retrouvent face à un mur absolu en matière juridique, en matière politique et parfois en matière physique. Honnêtement, je pense, je ne veux pas faire de provocation, mais je pense qu'il y a plus de danger pour un Français pied noir à retourner en Algérie aujourd'hui et essayer de trouver ses biens que pour un Serbe au Kosovo. Je peux vous assurer qu'il y a régulièrement des visites de Serbes au Kosovo. Je sais que pour beaucoup de Serbes, c'est d'abord extrêmement pénible et que psychologiquement, il y a une vraie barrière. Mais je peux vous assurer que moi, je suis retourné personnellement avec des Serbes. Alors vous me direz, mais c'est parce qu'ils étaient avec vous qu'ils étaient peut-être en sécurité aussi, c'est vrai. Mais moi, je suis retourné très souvent avec des Serbes au Kosovo. La situation s'est considérablement améliorée. Je vous dis pourquoi. Parce que depuis l'indépendance, les Albanais du Kosovo qui réclamaient cette indépendance sont beaucoup plus détendus, en fait. Pourquoi ? Parce que la tension qu'ils avaient vis-à-vis des Serbes, et ceux des Serbes qui étaient du Kosovo, c'était de dire ces Serbes du Kosovo sont une cinquième colonne. Les Serbes qui sont au Kosovo vont servir de prétexte à la communauté internationale pour ne jamais nous accorder notre indépendance. Et depuis qu'ils sont indépendants, ce que je vais vous dire est terrible, parce que d'un certain point de vue, c'est pas du tout satisfaisant, ils n'en ont rien à fiche des Serbes. Mais j'allais dire, au moins, tant mieux, parce qu'ils n'en ont rien à fiche en négatif. Ils ne se sentent pas obligés de leur taper dessus pour s'affirmer. Donc, vous allez aujourd'hui, par exemple, vous le disiez justement, vous avez des Serbes qui vivent au nord, mais ils vivent entre eux. Bon, ils ont une espèce d'autonomie, hein, faut pas ils se régulent entre eux avec Belgrade. Et puis, ceux qui vivent dans les enclaves. Moi, je connais bien les enclaves, Gračanica, Peć, hein, autour des monastères, généralement, et à Pristina même. Dans les enclaves, je peux vous dire que c'est beaucoup moins tendu que ça ne l'était. Il y a 4 ans encore, 3-4 ans, les enclaves autour, c'était des barbelés. C'est comme ceux qui connaissent Israël et Palestine, c'est pareil. Hein. C'est comme des petites colonies, donc c'est des enclaves, donc entourées de barbelés. Il y avait des soldats de l'OTAN aux entrées de route, aux sorties de route. Aujourd'hui, il n'y a plus de barbelés, il n'y a pratiquement plus de soldats de l'OTAN. Ça s'autorégule. Et ça se passe pas si mal. Il n'y a pas trop d'incidents. Les incidents sont plutôt avec le nord, en fait, mais dans les enclaves. Pourquoi ? Parce que les Albanais. Ces Serbes qui vivent là ont toujours été là, donc finalement ils se connaissaient quand même. Donc sauf en période de guerre où il y a une grande tension, après tout c'est des voisins après qui revivent comme ils vivaient avant. Et puis les Serbes qui sont là, s'ils sont restés là, c'est terrible à dire, mais s'ils sont restés là, c'est vraiment qu'ils voulaient rester là. Parce que vivre dans les conditions où ils ont vécu et qu'ils sont restés là, c'est pas pour partir maintenant, j'allais dire. Donc ils restent malgré tout. Donc la situation c'est quand même très apaisée. Elle ne s'est pas apaisée sur le plan politique, il y a toujours des contentieux énormes, mais sur le plan de la vie individuelle, elle s'est considérablement apaisée. Et je peux vous dire, un Serbe qui débarque aujourd'hui à l'aéroport, quand vous prenez l'avion aujourd'hui pour Pristina, je ne vais pas dire que dans l'avion, vous entendez la moitié des gens qui parlent serbe, mais, et je vous dis encore une fois, moi je parle serbe, j'ai jamais eu aucun problème dans Pristina à parler ça. Si, des jeunes, les jeunes, parce que les jeunes sont moins habitués à cette coexistence. Alors les jeunes vous regardent un peu, quand ils entendent parler serbe dans les rues de Pristina, ils vous regardent un peu de travers. Et puis il y a toujours des extrémistes partout et des gens complètement... Vous savez, il y a des quartiers de Paris où même quand vous parlez français, vous êtes mal vu. Mais voilà, tout ça pour dire que moi, je suis prêt à regarder ce dossier parce que ça peut valoir la peine et ça peut valoir la peine d'ouvrir une brèche dans cette situation effectivement figée.
D'autres questions ?
Comment voyez-vous l'avenir de la défense européenne ? Elle peut-on croire à une armée européenne et une armée nationale ?
Moi, j'ai tendance à dire que si on veut tuer le projet de défense européenne, on parle de l'armée européenne. Parce que quand on parle de l'armée européenne, il y a tellement de pays auxquels ça fait peur. Bah oui, je suis d'accord avec vous. C'est le but ultime. C'est le but ultime. Alors, mais faut y aller petit à petit. Alors, on fait déjà ça avec les Allemands. On a déjà notre brigade franco-allemande. Vous avez vu qu'il y a. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est... Bon, mais ça existe quand même. C'est un embryon. Ça commence.
Chaque pays participe à la constitution d'une armée. Le budget de chaque pays de défense diminuerait.
C'est ce qu'on essaye de plaider. Mais vous avez beaucoup de... Le problème principal sur lequel on tombe là, il y a deux problèmes sur lesquels on tombe là, c'est encore des problèmes de susceptibilité nationale. Vous avez des gens qui disent, et je dois vous dire que c'est un peu le cas des Français quand même, hein. Les militaires français vous disent, se faire commander demain par un général lituanien, vous êtes gentil, mais nous, voilà, Bon, alors que dans l'idéal, une armée européenne, bah, vous pouvez tomber sur un général lituanien, un colonel polonais et un lieutenant portugais. Bon, voilà. Alors donc, il y a quand même toujours des problèmes d'harmonisation de tout ça. Puis de psychologie, c'est quand même pas facile. Le deuxième problème qu'on a, et qui est plus important à mon avis, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pays, il faut se parler clairement, qui n'ont pas envie d'avoir d'armée du tout. Et donc ces pays-là, vous leur dites, bah, on va créer une armée européenne, ça veut dire qu'ils vont être obligés de contribuer malgré tout. Et ils disent, mais vous savez, on a meilleur compte de faire un accord avec les Américains, puis que les Américains nous protègent, quoi. Et ça, c'est le cas notamment des petits pays, des pays baltes. Et ça, ça crée un vrai obstacle. Alors comment on va avancer là-dessus? Parce qu'on va y arriver. Enfin moi, je pense peut-être qu'on se revoit dans 20 ans, peut-être qu'on, d'ici là, on invitera un général qui commandera l'armée européenne. On vous donnera l'état d'avancement. Mais on a eu la brigade franco-allemande, ce qui était loin d'être évident. On a depuis, vous avez vu que on a eu un sommet franco-italien il y a un mois, dans lequel il a été décidé de créer ce qu'on appelle une brigade alpine, donc franco-italienne, pour commencer à travailler avec les Italiens. Je pense qu'on va pouvoir travailler avec un certain nombre de pays, mais vous savez, les sensibilités nationales restent très très fortes. Regardez par exemple en Afghanistan, on y est tous, mais on y est un peu tous en ordre dispersé. Et puis les Allemands, vous savez que les Allemands, quand ils veulent bouger un soldat d'un endroit à un autre, il faut qu'ils aient un vote du Parlement. Nous, Français, on veut bien aller dans certaines zones, pas aller dans d'autres zones. Les Américains, ils vont partout. Les Anglais, ils sont prêts à aller à peu près partout. Donc les Américains, les Anglais viennent nous voir en râlant, en disant ah, « on voudrait plus de Français dans ce coin-là ». Et nous, on dit « bah c'est un peu trop risqué, on n'y va pas ». Les Allemands, ils disent « oh là là, non, notre Parlement voudra jamais qu'on aille dans tel coin trop dangereux ». Et là, c'est quand même difficile de passer outre. Mais... je crois que ce que vous dites est vrai. On a deux extrêmes, si vous voulez. Enfin, deux extrêmes. C'est le cheminement d'un point A à un point B. Mais le point B, c'est l'armée européenne. Le point A, c'est des armées strictement nationales. Mais derrière ça, vous savez, il y a un vrai problème, comme je le disais en introduction, il y a un vrai problème de nature philosophique. C'est pour qui et pourquoi meurt-on? Parce que quand on est soldat et qu'on s'engage... Et j'allais dire, a fortiori, quand on est officier et qu'on va commander des hommes au feu, on les envoie se faire tuer. Pourquoi? Et donc, moi, je pense, effectivement, et ayant vu ça, d'ailleurs, en ex-Yougoslavie, puisqu'on était un peu tous ensemble, je pense qu'il y a des causes qui valent qu'on se batte ensemble. Et vous savez que quand on se retrouve, je pense, face à un taliban ou face à un type d'Al-Qaïda, qu'on soit français, espagnol, anglais, pour lui, on est un occidental, j'allais dire, on est un blanc chrétien. Bon, donc, ça n'a pas de sens de faire des divisions nationales par rapport à ça. Il y a des combats qui méritent d'être menés tous ensemble. Certains conflits sont perçus comme étant des conflits... je vous ai dit, on a envoyé des Polonais au Tchad. C'était la première fois qu'il y avait des Polonais qui allaient en Afrique. Des militaires polonais. Bon, si demain, nous, Français, on décide d'intervenir au Congo, quand on y est allé avec les Allemands, par exemple, les Allemands, vous savez que ça a été très, très difficile. Eux, ils nous ont dit, mais pourquoi on mourrait, on enverrait un soldat allemand se faire tuer au Congo? Nous, ça nous paraît, faites attention hein, à ce que je dis, je veux dire, ça nous paraît plus naturel. Mais bon, voilà, envoyer des soldats en Afrique, pour nous, c'est pas iconoclaste, on a toujours eu, bon voilà. Pour des Allemands ou des Polonais, aller se faire tuer en Afrique, vous avez immédiatement un débat de société en Pologne, est-ce que ça vaut le coup de mourir pour l'Afrique? Donc vous voyez, avant même d'arriver aux questions techniques et budgétaires, mais moi je vous donne entièrement raison, hein, si vous voulez, mais avant même d'arriver aux questions techniques et budgétaires, il faut résoudre cette question un peu philosophique qui est de dire, une armée européenne, parfait, pourquoi faire? Pour défendre quels intérêts? Quelles causes? Quelle valeur? Qu'est-ce qui va valoir que, indistinctement, un Portugais, un Lituanien, un Français, le même jour, j'allais dire, se fasse tuer au même endroit, pour quelle cause? C'est terrible de dire ça, de poser l'équation comme ça, mais ultimement, c'est quand même ça.
Quand on voit que sur l'armée française, il y a eu des refus de partir en Afghanistan.
Bien sûr, bien sûr. Et que vous avez vu, quand on a des pertes en Afghanistan, se pose la question de la légitimité de notre engagement. Ce qui est sain, d'ailleurs, enfin, je veux dire, quand c'est posé dans des termes raisonnables, quand on est, enfin, là encore, je vais employer des mots qui dépassent un peu ma pensée, mais quand on n'est pas dans des opérations de sabotage, comme on a pu connaître à certains moments de la guerre d'Indochine ou autre, c'est sain de se poser la question, pourquoi on est là-bas? Parce que moi, je pense qu'un jour, il faudra qu'on en parte. Pourquoi on est allé en Yougoslavie? Pourquoi, voilà. Donc ça, c'est des questions saines. Il faut qu'on se les pose. C'est des vraies questions politiques, donc elles méritent d'être débattues. C'est pour ça d'abord qu'il faut que le Parlement aussi s'en saisisse. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a la question du pourquoi on s'engage. J'ai dire, une fois qu'on y est, on y est, quoi. Et là, il faut faire face, il faut faire front. Et le problème, c'est que à trop avoir de doutes une fois qu'on a décidé, bon, c'est quand même très dangereux.
C'est quand même dommage quand on voit des réticences de la part de militaires. Moi, je me souviens d'un reportage sur le porte-avions Charles de Gaulle il y a quelques années, où j'ai interviewé une jeune fille matelot d'origine maghrébine, et on lui a posé la question un peu vicieuse, je dirais. Quelle serait votre position en cas où la France entrait en conflit armé avec l'Algérie? Il n'y a pas eu de réponse.
Oui, mais vous savez, c'est grave, et le cas que vous citez, c'est pas pour contrebalancer immédiatement, mais c'est un cas qui va être, à mon avis, assez problématique dans les armées françaises à l'avenir. C'est un cas qu'on... les Américains viennent de le connaître par rapport à un soldat qui a commis des attentats dans sa propre base américaine, qui est un soldat de confession musulmane. Je ne veux pas être provocateur, mais on a le cas aussi avec une partie de plus en plus importante de la communauté israélite qui se considère israélienne avant de se considérer française. Or, il se trouve que nos intérêts ne coïncident pas forcément. Et imaginons, je vous disais tout à l'heure, imaginons demain, on a une solution au conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire, Inch'Allah, Dieu veut, enfin bon, d'accord. On a une solution au problème israélo-palestinien. On déploie une force européenne. Dans cette force européenne, il y a des Français de confession israélite. Parmi eux, il y en a qui se disent, je me sens plus israélien que français. Quelle va être la fiabilité de ce soldat sur le terrain? Mais ça peut être dans la finule actuelle au Liban, par exemple, hein, ou dans la force qu'on a déployée au Liban. Donc ça, c'est des problèmes, on va les avoir dans nos propres armées, avant même de parler d'armées à 27. Mais ça pose un... On a des vrais cas de conscience hein, qui se posent, et de plus en plus. Cela étant, moi, je retiens ce que vous dites, monsieur. D'abord, ça serait cohérent, ça serait rationnel budgétairement, ça serait rationnel techniquement. Et franchement, je pense aussi que ça serait rationnel géopolitiquement. Je pense qu'on a quand même de plus en plus d'intérêts en commun. Les menaces sont globales, les menaces sont multipolaires. Se focaliser sur une menace qui concernerait un seul de nos pays, je ne pense pas que ça soit réaliste. Bon, on y arrivera, mais ça va prendre très longtemps.
Une question, là, on est obligé de conclure, puisque l'agenda de M. Dangean est...
Je dois repartir en Bresse, hein. Oui, j'ai un... Ah non, même pas 2 minutes, Jackie, je suis désolé. Je suis vraiment aux pièces. Mais...
Sauf à avoir une oreille très inattentive, je voudrais avoir votre avis sur l'impression qui est la mienne d'entendre en période de crise grecque, vu telle économique et financière, d'entendre beaucoup plus le directeur général du Fonds monétaire international que le président du Conseil européen.
Ouais.
Voilà. Est-ce que je me trompe?
Non. Non, et ça s'explique. J'allais dire malheureusement, ça s'explique. C'est assez logique, parce que tout était... Enfin, la réponse est dans la question. Le FMI est une organisation internationale qui n'est pas qui n'est pas gouvernementale. Hein. Monsieur Strauss-Kahn, il est directeur général du FMI. C'est pas un homme politique à ce titre-là. C'est simplement un haut fonctionnaire, j'allais dire, donc qui exécute les vœux des gouvernements qui participent au FMI. Mais c'est une organisation internationale, donc la prise de décision, elle est assez facile. Et puis on déroule, quoi. Ils exécutent ce qu'on leur dit d'exécuter. Et là, on leur dit, vous faites un plan d'aide pour la Grèce. Ils font le plan d'aide pour la Grèce et ça marche tout seul. Et ils ont l'habitude de le faire. Au niveau européen, ce qu'on appelle l'Eurogroupe, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement des 16 pays qui constituent l'euro, ils ont des politiques fiscales différentes, ils ont des politiques économiques différentes, ils ont des politiques sociales différentes. Ils essayent d'avoir une politique monétaire unie qu'ils confient à la Banque Centrale Européenne. Mais voilà, la réponse est dans la question. On est tributaire des agendas de chacun, des préoccupations de chacun. Et puis on a les Allemands, évidemment, qui sont plus rigoureux. Pas forcément à mauvais escient. Hein. Moi, je suis un peu frappé de voir qu'on jette la pierre à l'Allemagne, disant il fallait aider la Grèce. Vous savez, si la Grèce en est là, c'est quand même pas par hasard non plus. Enfin, je veux dire, évidemment, faut l'aider. Évidemment, il faut l'aider aujourd'hui. Et l'Europe, c'est ça. L'Europe n'est qu'une longue histoire de solidarité. Enfin, je veux dire, quand je vois mes amis grecs, bon, on savait tous depuis 20 ans que la Grèce vivait au-dessus de ses moyens. Voilà. De la même façon que, vous savez, on nous parle des manifestations en Grèce, il faut bien décortiquer les manifestants en Grèce. Il faut bien voir qui manifeste aujourd'hui en Grèce. Hein. C'est pas tout le monde qui manifeste en Grèce. Et il y a des gens en Grèce, et je veux dire mes collègues grecs, quand on en parle, ils savent très bien pourquoi ils en sont là aujourd'hui, et ils savent très bien par quelle cure drastique ils sont obligés de passer, mais c'est pas totalement un hasard non plus. Ce qui fait d'ailleurs le cas grec très particulier par rapport à d'autres cas en Europe, même s'il y a beaucoup trop de laxisme budgétaire de façon générale et de façon trop continue. Mais l'Europe, évidemment, malgré tout, je pense que la réponse européenne, en l'état actuel de ce qu'est l'Europe, bon, c'est pas si mal que ça. On va quand même mettre 110 milliards d'euros sur la table en période de crise. C'est quand même pas rien, quoi. Donc, voilà. Mais tant qu'on n'aura pas renforcé la gouvernance économique, mais le problème, c'est qu'on a fixé des critères au pacte de stabilité pour faire l'euro, mais personne ne se tient aux critères. Et nous, les Français, les premiers. Et nous, les premiers, on a créé des critères immédiatement. Mais tout le monde, hein, droite et gauche, dès qu'il a fallu dépasser les critères, c'est pas Bruxelles qui va nous imposer les critères, on fait ce qu'on veut. Bah, on fait tellement ce qu'on veut qu'à l'arrivée, tout le monde fait ce qu'il veut, et puis voilà, et bah, tout le monde paye pour tout le monde. Bon. Donc non, il faut qu'on soit plus rigoureux au niveau de l'Eurogroupe, mais la différence, c'est ça. Une organisation internationale qui n'a... Bon, et puis un groupe très politique, bon, on va voir ce qu'ils vont décider ce soir, mais un groupe très politique avec autant de politiques que de représentants, c'est un peu compliqué.
Merci, monsieur Dangean. On voit qu'il y a une pression questionnatoire, si je puis me permettre, c'est la mode d'inventer des néologismes, qui est très forte. Donc, vous êtes invité permanent à l'UTB de Chalon.
Ben, j'en serai ravi.
Dès que votre agenda vous le permettra, bien, vous serez accueilli. Le plus agréablement possible du monde. Merci encore de nous avoir consacré un peu de votre temps.
Merci.
Je vais bien rester plus longtemps.